l'infini jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.1.
Émission d'En jase à Boulevard 102.1. Il est précisément 12h40 sur notre page YouTube. Allez vous abonner. Il y aura le caucus avec Antonine Iaccarini. Caucus très intéressant. Vous avez interagi beaucoup sur Michael Rousseau et son français. Beaucoup de gens qui sont allés d'en entendre parler, mais qui réagissent beaucoup. Ça fait toujours parler la langue française. Dans quelques minutes, je vous dirai dans une dizaine de minutes, 10-12 minutes, on va s'entretenir avec Karine Gagnon, chroniqueuse politique pour le Journal de Québec. Chronique très intéressante sur la communication boiteuse de Bruno Marchand et sur Stéphane Lachance, qui ne joue pas bien son rôle d'opposition officielle. Ça résume pas mal ce qu'on dit depuis une couple de semaines, moi et toi, Pascal, à l'émission d'En jase. Alors, ça va être intéressant d'en parler avec Karine Gagnon et d'avoir un autre point de vue. Pascal, quelle est la grosse nouvelle avant que tu nous présentes ton dossier sur ce chauffeur qui a déjà une permission de sortie, c'est-à-dire Éric Légaré?
C'est super dur à choisir aujourd'hui parce que tu en as sur Québec, entre autres la CDPQ Infra qui a annoncé aujourd'hui l'identité des deux consortiums privilégiés là, qui vont assurer la conception, la réalisation de tous les systèmes, l'ouvrage du tramway de Québec. Ceux qui, pendant ce temps-là, réclament, comme Stéphane Lachance, qui est papier sur la table dans l'évaluation financière du dit projet avant de continuer. T'as Gilbert Rozon qui a fait l'annonce, entre autres, par communiqué, qu'il arrête la poursuite contre Julie Snyder et Penelope McQuaid parce qu'ils ont réglé ça à l'amiable. Par contre, la décision de la juge qui doit se prononcer sur la responsabilité civile de Gilbert Rozon, qui est accusé d'agression sexuelle et viol par 9 femmes, ça continue. Là. Le procès devait commencer le 22 avril en ce qui concerne la poursuite de M. Rozon, mais pour le reste, c'est encore d'actualité. Puis après, t'as le Canada qui a atteint les 2 % de son PIB en dépenses militaires. Ouais. C'est ce qu'a confirmé l'OTAN. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu autant d'investissements de la part du gouvernement fédéral. Là, McCartney a décidé que c'était 3 milliards de dollars supplémentaires dans les infrastructures militaires du Canada Atlantique.
Dossier très important, c'est-à-dire hier, décision des libérations sous condition où on permet à Éric Légaré, ce chauffeur récidiviste qui a tué 4 personnes en avril 2021, d'aller passer un week-end de 72 heures dans sa famille. Alors qu'il avait été reconnu coupable, il a reçu une sentence de 15 ans de prison, mais même pas 4 ans plus tard, il pourra retrouver une certaine liberté le temps d'un week-end. Et là, Pascal, tu t'es entretenu avec un homme qui, avec raison, n'est pas d'accord avec cette décision-là.
2021, là, dans ma tête, j'ai fait un petit saut hier parce que je me disais, 2021, ouais. Dans ma tête, c'était hier que c'est arrivé cet accident-là. Tout le monde a été percuté, puis c'est un mauvais mot peut-être, mais c'est pas choisi, par la mort de ces 4 victimes-là là, dans la collision mortelle sur Dufresne-Montmorency, par un gars qui s'est tanké littéralement là, dans un pub tout l'après-midi, qui a pris son auto, bedding dans l'auto en avant, bedang dans l'auto en arrière, pogne l'autoroute, envoie à sens inverse, revient sur l'autoroute dans le bon sens, mais n'arrête jamais et frappe de plein fouet une voiture où se trouve, entre autres, Jackson Fortin. Jackson Fortin, c'est un des 2 enfants qui était à l'intérieur de l'habitacle. Puis Daniel Fortin, l'homme à qui j'ai parlé ce matin, c'est son père. Son père qui est toujours en deuil. Fait qu'imaginez pour nous, si ça semble pas faire longtemps, cet accident-là, bien, imaginez pour Daniel Fortin, qui, lui, ne voit plus son fils, ne pourra plus jamais accès à son fils. Et pensait qu'en cours, il y a quelques années, bien, Éric Légaré, au moins, s'était ramassé 15 ans pour y être 15 ans. État d'ébriété au volant qui en fait des morts. Écoute, tu penses pas revenir en cours pour apprendre par les libérations conditionnelles que celui qui a tué ton fils va avoir le droit, le privilège à 72 heures mensuellement sur le territoire de la ville de Québec sans supervision pour aller voir sa famille parce qu'on pense que les liens familiaux doivent être entretenus entre lui et sa famille. Bon. Parenthèse quand même, il a demandé à avoir une permission pour aller voir une femme à Laval. Ça lui a été refusé. Mais à la suite de la nouvelle d'hier, moi, j'ai parlé à un père éploré qui en a marre complètement, qui a mal. Il parle de sa première réaction quant à cette nouvelle.
Barrage. Première, c'est barrage. La déception. Déception du système de justice. Je comprends pas pourquoi que sur une sentence de 15 ans et 15 jours plus le temps qu'il est fait, mais donc qu'il avait fait avant de sa sentence, donc mettons 16 ans, qu'après 4 ans il peut déjà aller 72 heures par mois dans sa famille. Ça, veut dire qu'à part qu'il risque d'être avec sa famille, faire la chasse au coucou de Pâques avec ses nièces puis sa famille, tandis que moi, chez nous, il va avoir un panier vide qui va attendre. C'est ça.
Je le comprends tellement d'être enragé.
Enragé, triste, c'est comme sa première réaction, la rage dont tu parles.
On le serait tous.
C'est vrai, là, l'image qu'il donne, là, à part que nous, on va être avec notre famille puis tout ça, puis lui aussi, M. Légaré, oui. Ben, Légaré, Éric Légaré va pouvoir le faire. Pense-y, là, Daniel Fortin n'a plus son fils. Pour aucun souper de famille, pour aucun pour rien. Parce que Légaré, c'est un récidiviste en matière d'alcool puis d'alcool au volant. J'ai demandé à M. Fortin de commenter en partie le rapport explicatif de la décision qui mentionne qu'Éric Légaré va avoir le droit de sortir chaque mois de prison, puis sans surveillance, je le répète, malgré le fait qu'il soit émotivement impliqué, là, comment il a réagi, puis comment a réagi le reste de la famille?
Ben, c'est sûr que je suis biaisé, mais en même temps, je ne sais pas si vous avez lu le rapport au complet ou si vous avez juste eu des bribes, mais ils disent que lors de son incarcération, c'est un détenu exemplaire. Je m'en doutais que c'est un exemplaire. Il a pas consommé. Donc ils ont dit, tu sais, depuis le début de votre incarcération, vous avez arrêté de boire, t'sais. De prendre de l'alcool, puis qu'on soit arrêté de consommer alors qu'il est en prison. On sait qu'il y a de la drogue puis de l'alcool en prison. On sait, mais il peut pas aller à la cantine chercher une caisse de 24. Ça fait ce côté-là, c'est un peu une claque d'en face. T'sais. Dire, ah, ben, tu sais, tu bois plus. Depuis 5 ans, tu conduis plus ta voiture. Ben non, tu es en prison. C'est un peu dur de conduire ta voiture. Hein.
Puis on le comprend tellement, la réaction, parce que moi, je suis pro-réhabilitation sociale, puis je suis content de voir qu'un détenu a un bon comportement à l'intérieur, puis qu'il travaille sur lui-même, comme Éric Légaré le fait. Mais où est-ce que je ne comprends pas, c'est le fait que ça arrive si tôt dans le processus, alors qu'il y a 15 ans d'incarcération comme sentence.
Puis moi, je suis en désaccord avec toi là-dessus, parce que je suis un peu sonné par ce qu'a dit M. Fortin. C'est vrai qu'en prison, bon, il y en a qui le font, puis ça, c'est un problème carcéral, mais
oh oui.
Si tu consommes pas d'alcool, si tu consommes pas de drogue, tu es considéré comme étant quelqu'un qui veut s'améliorer. Mais t'es pas supposé, on n'est même pas supposé avoir ce discours-là.
Ouais.
Commencer à réfléchir sur le fait qu'il n'en prend pas en prison. Il me semble que c'est même pas un enjeu. Ça devrait pas être une discussion. Ça devrait pas être un point. Tu sais, je le comprends, M. Fortin.
Ouais, moi, je sortais la drogue et l'alcool là-dedans.
Mais c'est comme ça dans le rapport que c'est écrit. Puis c'est pour ça qu'il est considéré comme étant un
sans
bon prisonnier. Puis il a renchéri, M. Fortin. Il dit pour lui, Légaré pense juste à lui.
Oui, tout le monde n'en revient pas. T'sais, les blessures sont pas encore. Puis ça, j'en parlais la semaine dernière, là, ben, quand on est allé en commission. T'sais, je veux dire, on a de la difficulté à penser les blessures parce que lui, à chaque 6-8 mois, il fait une demande de sortie. C'est sa quatrième demande de sortie en 4 ans. Fait qu'on recommence pas à zéro, mais on est tout le temps dans les grosses émotions à cause que cette personne-là. Il est encore, on voit tout de suite qu'il est encore imbu de lui-même, puis qu'il y a seulement lui qui est important dans toute cette histoire-là. T'sais.
Clairement d'accord. Ça fait 4 ans en ligne qu'il demande un permis de sortie.
Au six mois,
c'est qu'il pense pas du tout, il assume pas du tout les conséquences de ses actes. Pleinement d'accord avec M. Fortin.
Tu sais, notre système de droit veut prendre la réhabilitation sociale des prisonniers. Mais quand tu es directement concerné, puis tu vis ce que M. Fortin vit, je pense que ça prend une toute autre ampleur.
Dans la décision, ou quand ils disent qu'il mérite, bon, avec tout ce qu'il fait en prison, ben, c'est un prisonnier modèle, il mérite de commencer à sortir. Ben, je m'excuse, il mérite absolument rien. Cette personne-là, Éric Légaré, ne mérite absolument rien. Il profite d'un système de justice qui est défaillant, puis que encore une fois, les victimes, on passe en deuxième. C'est tout le temps le prisonnier qui passe en premier, puis les victimes, on passe deuxième. Fait qu'ils profitent encore une fois d'un système de justice défaillant, puis ils pensent qu'à lui.
Et ça, oui, les libérations conditionnelles sont beaucoup trop souples pour laisser un gars comme ça sortir après à peine 4 ans derrière les barreaux pour une sentence de 15 ans.
Dans ma conversation avec ce père de famille-là qui a perdu son jeune fils Jackson, tu te demandes tout le temps, est-ce que tu as l'impression de... Est-ce que vous avez l'impression que si, que ça? Puis pour lui, je me suis toujours demandé s'il pensait que M. Légaré, Éric Légaré, j'ai tout le temps de la misère à dire monsieur là, dans ces cas-là, mais est-ce que vous pensez que Légaré éprouve des remords, selon vous? Ça a été ma question.
Non. Non. Parce que s'il y avait des remords, il ne ferait pas vivre ça à toutes les 8 mois. Si, moi, admettons, je serais dans cette. On inverse les rôles, puis que j'avais des vrais remords, là, je me tiendrais tranquille les premières années, me semble. Tu sais, je laisserais la poussière descendre, autant pour les victimes, mais surtout pour ma famille. Parce que, tu sais, sa famille, elle lit aussi, là, ils entendent les bébés, ils lisent les médias, puis ils sont au courant de ce qui se passe, puis de ce que le monde dit. C'est sûr, je ne les connais pas, mais j'ose imaginer. Fait que, il me semble que moi, je resterais tranquille les premières années, me serais oublié. Mais non, lui, on continue. Ah ouais, je sais pas s'il cherche l'attention, j'ai aucune idée, mais à faire 4 demandes en 4 ans, on voit tout de suite que ce qui est important pour lui, c'est lui-même. C'est Éric Légaré, lui, puis lui tout seul, puis les autres, on s'en fait.
Oui, oui.
Je suis un peu agressif, là. Vous pouvez me comprendre un peu, là.
Je le trouve pas du tout agressif, je le trouve sensé dans sa prise de position. Parce que, en effet, moi, ce qui présentement, tu sais, tantôt, j'ai dit, ouais, je trouve ça le fun qu'un prisonnier fasse un cheminement personnel, mais avec ses demandes à répétition. J'ai tendance à croire que ce prisonnier-là ne fait pas son cheminement personnel. Donc, je suis très d'accord avec ce que M. Fortin dit.
Pour ma dernière question, elle n'engage que moi et aucun autre de mes collègues. J'ai essayé de la poser de la façon la plus humaine possible. Vous allez voir, je repose ma question un moment. Mais je vous laisse aller chercher ce que vous voulez aller chercher dans ce que vous allez entendre. Légaré, Éric Légaré, il n'aura pas le droit d'aller sur certaines parcelles du territoire pour essayer de ne pas croiser la famille des gens qui sont décédés, tout ça. Mais il n'est pas impossible que M. Fortin le croise, veut pas, là. Tu sais, je veux dire, l'ange gardien, là, si c'est qu'une parcelle du grand territoire de la capitale nationale. J'ai demandé s'il avait pensé à ça, le fait qu'il pouvait peut-être croiser Éric Légaré.
Oui. Je vais m'abstenir de commenter.
Vous allez devoir utiliser beaucoup de self-control.
Je vais m'abstenir de commentaires.
Je comprends. S'il vous plaît. Non, je comprends. Je comprends.
Et c'est tout à fait normal qu'ils ne veulent pas le recroiser. Là, on s'entend, il est encore très en deuil comme père de famille, qui ne serait pas.
Mais moi, ce que j'entends,
je pense
c'est
à tous les papas et tous les mamans à l'heure actuelle.
Mais ce que j'entends, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de savoir quelle va être sa réaction si ça arrive. Tu sais, c'est tôt, c'est beaucoup. La première chose que les gens disent à chaque fois qu'arrive un drame de ce type-là puis qu'on en parle en ondes, c'est si ça arrivait à mes enfants. Je sais pas ce que je ferais. Puis chaque fois, depuis 13 ans à la radio, je réponds la même chose que j'ai répondu à mon père qui un jour a assis ses 3 filles devant lui puis a dit « Si quelqu'un vous touchait d'une manière ou d'une autre, je ne réponds plus de mes actes. » Puis moi, j'avais répondu « Ouais, mais pas en prison, c'est encore pire pour nous. Si t'es en prison, c'est pire pour nous. » Puis ça me ramène à cette réponse-là très courageuse et très parlante d'un papa que j'avais au bout du téléphone ce matin qui me dit « Oui, j'y ai pensé, mais ça ne me tente pas de répondre plus à la question.
Ouais. »
Puis j'espère que Daniel Fortin est bien entouré, parce qu'en tant que papa qui a perdu son petit gars, Jackson Fortin, en 2021, dans un accident aussi terrible que celui-là, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ressenti qui doit être dur à gérer.
Non, en effet, nos pensées sont avec Daniel Fortin, qui est une victime collatérale là-dedans, qui est une victime d'avoir perdu son fils. Il ne pourra pas bénéficier. On ne va pas donner de l'amour à son fils comme il aurait voulu en donner dans sa vie. C'est un événement très triste. Je me joins à Steve Pascal qui écrit « Bravo Pascal, belle entrevue. » Pas facile comme discussion. Non, vraiment pas facile. Continuez à interagir au 418-971-1021. On va souhaiter qu'à force d'en parler dans les médias de dossiers comme ça, bien, les libérations conditionnelles prennent des décisions qui vont plus dans le sens de la décision d'un juge que donner une peine de prison de 15 ans. Merci beaucoup, Pascal.
Plaisir.
Jusqu'à 14h.